Hors Cases, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.
Bonsoir et bienvenue dans notre émission Hors Cases. Ce soir, nous allons parler d'un sujet, peut-être pas tabou, mais en tout cas un sujet dont on ne parle pas spécialement dans les médias ou ailleurs. Nous allons parler des violences entre partenaires intimes vécues par les personnes non hétérosexuelles. Alors c'est une étude qui a été initiée par le Tel Quel, en partenariat avec l'Observatoire du Sida et des Sexualités. Et pour en parler, la personne qui a mené l'étude, Tessa Poncelet. Bonsoir Tessa.
Bonsoir Valérie.
Est-ce que tu peux un peu te présenter ?
Oui, donc je m'appelle Tessa Poncelet, je suis chercheuse engagée par Tel Quel, la SBL, et soutenue par l'Observatoire du Sida et des Sexualités de l'ULB. J'ai fait mon master en psychologie clinique et psychopathologie à l'ULB également. J'ai terminé cela il y a 2 ans. Et puis j'ai enchaîné sur ce projet, sur les violences entre partenaires intimes au sein des relations non hétérosexuelles, dont Valérie va nous parler un petit peu, ou dont je vais vous parler un petit peu plus, surtout.
Oui, surtout, c'est ce que j'allais dire. Moi, je peux te poser les bonnes questions, mais voilà. Mais d'ailleurs, une des premières questions, c'est qu'est-ce que la violence conjugale ? Et est-ce que le terme « violence conjugale » est encore pertinent à l'heure actuelle ?
Alors, probablement qu'il est pertinent, en tout cas il est encore très utilisé, mais c'est vrai que nous et de plus en plus d'études vont plutôt utiliser le terme violence entre partenaires intimes. Ça c'est déjà fort le cas aux États-Unis, c'est souvent la recherche démarre souvent là-bas et donc le terme IPV, Intimate Partner Violence, est presque devenu le terme commun pour parler des violences entre partenaires. Et donc on va choisir ce terme-là pour s'éloigner un petit peu des contraintes que le terme violence conjugale enferme, ou violence domestique, on entend parfois, ou violence familiale. En fait, ce sont tous des termes qui soit impliquent des violences qui sont un petit peu en dehors du cadre de ce qu'on étudie, comme les violences sur les enfants ou sur les personnes âgées, ou bien qui enferment dans le cadre d'une relation conjugale, comme c'est le cas des violences conjugales. Là, on parle plutôt du mariage. Or, c'est très réducteur puisque ces violences existent dans beaucoup d'autres relations intimes que les relations conjugales.
Et quand on parle de violence, on met cette violence ou ces violences ?
Alors ça, c'est aussi un peu un débat. On peut utiliser les deux. Disons qu'il s'agit d'un contexte de violence et de tout un tas de types de violences qui s'entremêlent. Donc ça, on va trouver un petit peu les deux dans la littérature. Nous, on a utilisé les violences puisqu'on aborde de manière assez catégorielle 3 types de violences. On en parlera après, les violences, parce qu'on catégorise un petit peu, ce qui est d'ailleurs critiquable, ce qui est des violences sexuelles, les violences physiques, les violences psychologiques et bien d'autres encore. Donc nous, on a choisi les violences pour un petit peu rendre compte de la diversification des types de violences.
Ok, je sais qu'on peut en parler après, mais est-ce que ces violences sont aussi classées par gravité, par intensité ? Est-ce qu'on se dit que la violence psychologique est peut-être moins grave ou moins sévère que la violence physique ou sexuelle ?
Oui, donc ça c'est un point très important qui ressort dans notre enquête et dans beaucoup d'enquêtes. En effet, on a tendance dans le langage courant ou dans la pensée commune de supposer que les violences psychologiques sont moins graves et que les plus graves sont les violences sexuelles. Ça, c'est un petit peu la classification qu'on a tendance à imaginer sans grande réflexion. Et il se trouve que ce n'est pas du tout le cas. Donc, nous, on a réussi, grâce à certains calculs statistiques, à catégoriser plutôt selon un taux de violence, donc un contexte de violence qui dépasse un certain seuil, plutôt que selon les types de violences. Donc, on va vraiment considérer qu'une personne qui vit tous les jours de la violence psychologique sévère ou même moyenne peut être dans une situation tout aussi grave, voire plus grave, et qui peut entraîner la mort ou des événements très graves, qu'une personne qui vit des violences physiques extrêmes une fois, ou même, enfin, disons que c'est pas comparable par le type de violence vécue, c'est vraiment plus comparable par le niveau du contexte de violence dans lequel la personne évolue.
Et cette étude, elle a une origine. J'ai dit que c'était à l'initiative de Telquel, mais j'imagine qu'il y a une histoire derrière cette initiative. Il y a des constats, il y a des objectifs aussi.
Oui, alors le constat, si j'ai bien compris, donc ça c'était avant que moi j'arrive pour mener l'enquête, c'était par la SBL telle quelle, une série de personnes qui faisaient part d'une difficulté à trouver de l'aide en tant que victime ou même en tant qu'auteur, autrice. Donc le public de telle quelle qui est vaste et telle quelle qui a un service social qui accueille les personnes pour tout type de problématique s'est rendu compte qu'il y avait ce problème des violences entre partenaires intimes qui était peu ou pas traité dans les associations faites pour cela. Et donc, ils sont allés voir ces associations en leur demandant s'ils avaient un public LGBTQIA+, donc les endroits de les refuges ou les endroits où on peut aller quand on est dans une situation de violence. Et ces gens qui pourtant n'étaient pas toujours fermés ou imperméables à la problématique, parfois c'est le cas, parfois on imagine que ça n'existe pas chez les LGBTQIA+, mais pas toujours. Malgré cela, le public n'était pas là. Donc ils ont eu un petit peu ce constat qu'il y avait une problématique et qu'il n'y avait simplement pas de service qui y répondait. Donc, pour pouvoir mener à bien des projets de terrain, de formation, peut-être d'ouverture de nouveaux centres, des actions concrètes pour répondre au problème et l'aborder, il fallait d'abord un constat de la prévalence de ces violences dans la population en général, d'où l'enquête.
Ok. Je sais en tout cas qu'effectivement, il y a eu des échanges avec des partenaires comme le Centre de prévention des violences conjugales et intrafamiliales, et que c'est effectivement important de se dire que une partie du public n'était pas touchée, donc n'était pas couvert. Et ça, c'est un constat important, effectivement, quoi.
Tout à fait.
Et avant qu'on en arrive aux résultats, parce que c'est aussi la finalité de cette émission, c'est de voir qu'est-ce que ça donne en chiffres, qu'est-ce que ça donne en données. Est-ce qu'il existe des études similaires en Europe et ailleurs dans le monde ?
Oui, alors pas beaucoup. Déjà la thématique des violences entre partenaires intimes en général est un petit peu sous-étudiée, mais elle l'est essentiellement dans le cadre de relations hétérosexuelles ou sous le prisme du genre, hein, des violences de genre. Et alors, dans la suite de ça, les Américains, c'est toujours souvent là-bas, comme je l'ai dit, que les études émanaient. Aux États-Unis et au Canada, on a quelques études sur la thématique des violences entre partenaires non hétérosexuels. Depuis les années 70-80, il y a un certain nombre d'études qui sont sorties. Par contre, les résultats sont très, 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 très variables. C'est très difficile, en fait, d'avoir une méthodologie plus ou moins commune. Il faut arriver à se mettre d'accord sur la définition des violences, sur la définition de non-hétérosexuel. Disons que la plupart, d'ailleurs, vont s'adresser plutôt aux homosexuels ou aux transsexuels, mais le terme non-hétérosexuel, ça, on ne l'a pas encore trouvé dans beaucoup d'études. C'est quelque chose qu'on a choisi de faire, mais qui était un petit peu innovant, on va dire, pour être vraiment le plus inclusif possible. Et donc voilà, ces études qui existent varient très très fort dans leur méthodologie, dans leur approche du sujet. Et donc on a des chiffres qui sont entre 8,8% et 56,9% de personnes non hétérosexuelles auraient vécu des violences entre partenaires au cours de leur vie. Ça, c'est une méta-analyse de justement qui reprend toutes ces études qui le dit. Donc on a quand même une fourchette très large, entre guillemets, ça veut tout et rien dire. Et la seule chose qu'on approche de nous en Flandre, puisqu'ici c'est la première étude sur la Belgique francophone sur ce sujet, on a une étude en Flandre qui a été menée en 2015 par Ellemans et Hall, qui stipule, elle, que entre 14,5 et 57,9% des personnes non hétérosexuelles auraient vécu des agressions physiques et psychologiques. Donc, de nouveau, c'est très vaste. Et il faudrait aller plus en détail dans les constituants de ces chiffres pour comprendre. Donc, des chiffres existent, mais ça manque de précision et d'effet, du coup, direct.
Ok. Et maintenant, on va parler de l'étude en elle-même. Et est-ce que tu peux nous donner les résultats et expliquer les résultats ou donner des pistes de...
Oui, bien sûr.
Interprétation.
Oui, alors nous, dans notre étude, on a choisi d'étudier les violences subies, les violences commises, déjà deux variables, et dans la relation, ce qu'on appelle la relation, c'est la relation actuelle, si la personne est en relation, ou dans sa relation dernière en date, si elle est, elle n'a plus de relation au moment de l'enquête, ou de choisir une relation parmi plusieurs. Donc ça, c'est aussi important quand on parlait des violences conjugales. Nous, on parle vraiment des violences entre partenaires intimes. Donc, une personne peut subir ou choisir de parler de choses vécues dans une relation parmi plusieurs, par exemple. Ça illustre bien ce qu'on cherchait à faire. Donc, on a quatre variables, finalement. C'est les violences vécues au sein de la relation, les violences commises au sein de la relation, les violences vécues dans le passé, au cours de toutes les relations passées, au cours de la vie, en dehors de la relation dont on vient de parler, et les violences commises au cours de la vie. Parce que là aussi, on voulait voir un petit peu les parallèles. Une partie des résultats de l'enquête, notamment ces parallèles entre le passé et le présent, feront l'objet d'analyses supplémentaires qui démarrent maintenant. Mais jusqu'ici, on a pu déjà analyser tout ce qui était violence subie dans la relation. Et là, comme je vous disais, on a fait un calcul, je ne vais pas vous embêter avec les statistiques, mais on a réussi à catégoriser selon trois taux de violence vécues, des violences, on va dire, des faits de violence vécues, ou des violences graves, qu'on appelle violences importantes, ou des violences extrêmes, ou vraiment très très sévères, ça c'est la troisième partie. Et les résultats qu'on a obtenu, c'est que 54% des participants ne déclarent aucun vécu de violence, ce qui est au-dessus de la moyenne, mais ça veut dire aussi que l'autre partie, 46% des participants vivent ou ont vécu des violences entre partenaires intimes dans leur relation. Donc proche de la moitié des personnes déclarent des faits de violence allant de modéré à relativement important. Et parmi ceux-là, donc on a 14% qui vivent des violences importantes. Ça, c'est des personnes qui vont répondre à beaucoup d'aspects de violences psychologiques, physiques et sexuelles de manière répétée. Donc une certaine intensité et fréquence des violences. Et alors, on a 7% de personnes qui vivent des violences très sévères ou extrêmes. Là, c'est vraiment des agressions quotidiennes, des contraintes, un contrôle très intense dans la relation. Ce qui est quand même, on estime, des chiffres conséquents. On retient évidemment que proche de la moitié des gens vivent ou connaissent de la violence dans leur couple, dans leur relation. Et avec ça, donc, on a été un petit peu plus loin dans les profils des personnes qui vivent ce type de violence, qui vivent de la violence. On n'a pas vraiment, donc ça devrait faire l'objet d'études supplémentaires, on n'a pas de différence qu'on peut vraiment appeler significative entre les groupes de personnes quand on sépare les hommes cisgenres, les femmes cisgenres, les hommes transgenres, pour voir un petit peu quels sont les seuils. Il y a des différences, donc ça vaudrait la peine d'investiguer plus en profondeur, mais notre étude étant une étude de commodité, un échantillonnage volontaire, on va dire, des participants, on est un petit peu en sous-représentation forcément des personnes plus minorisées, comme c'est le cas dans la population, ce sont des minorités, donc à moins d'aller les chercher, les toucher spécifiquement, on a ce qui est représentatif de la population, c'est-à-dire 8% de personnes minorisées, personnes appartenant à des minorités ethnico-raciales. On a au niveau des personnes trans, je pense que là on est carrément en dessous des pourcentages de la population, donc on a réussi à toucher 33 hommes trans sur notre échantillon de 1199 personnes, donc c'est vraiment très peu, et femmes trans encore moins, on a que 15 femmes trans qui ont répondu à l'enquête. Donc ça veut dire qu'on peut voir des tendances qui vaudraient le coup d'être investiguées, mais on ne peut pas encore dire suffisamment là-dessus. Il faut savoir que tous les résultats de cette enquête seront publiés fin d'année, donc probablement au mois d'octobre 2023, et qu'à ce moment-là, tous ces résultats spécifiques seront explicités dans le détail, pour ceux que ça intéresse.
Ok. Quand tu dis publier, c'est accessible sous quelle forme ? Format papier, format sur un site où, vous avez déjà une idée à peu près ?
Ce sera d'office accessible sur le site de Tel Quel et sur le site de l'Observatoire du Sida et des Sexualités de l'ULB. Et il y aura également une publication papier et probablement un article aussi qui sera rédigé. Tout ça accessible via Tel Quel.
D'accord. Et ma question suivante porte sur la difficulté ou la facilité d'amener les gens à participer à l'enquête.
Donc, comme je l'ai très brièvement explicité, nous, on a fait le choix d'une enquête en ligne exclusivement. C'est aussi une question de moyens et de temps. Ce qui veut dire que, entre guillemets, c'est relativement facile d'atteindre les personnes, mais c'est un type de personnes qu'on va réussir à atteindre. Et donc, c'est un peu ce que je disais, on a une population dans notre échantillon qui est celle qui répond à ce genre d'études. C'est tout à fait représentatif des gens en fait, qu'on arrive à toucher via les réseaux sociaux et tout ça. C'est des classes, je ne voudrais pas dire classe moyenne, mais c'est des personnes qui gagnent entre 2000 et 2500 euros en moyenne, des personnes plutôt blanches, plutôt qui ont fait des études secondaires, des études supérieures minimum, qui ont un certain train de vie. Et donc, on a suffisamment de personnes que pour pouvoir tirer des conclusions assez représentatives, mais on a certainement une sous-représentation de certaines populations qui n'ont pas accès, ou on n'a quasi aucun sans-papier, par exemple. Et donc là, il faudrait vraiment démarcher d'une autre manière. On a un questionnaire qui était divulgué qu'en français. Ça aussi, c'est évidemment un facteur. Donc, il y aurait besoin probablement d'enquêteurs de terrain, enquêteurs IS de terrain, avec des iPads ou quoi, pour aller chercher d'autres populations.
C'est prévu, ça, ou ça, une étape, c'est un step au-dessus
Ça pourrait tout à fait être prévu. En fait, ce genre d'enquête qui tout à fait exploratoire et descriptive, permet justement d'ouvrir des pistes de réflexion pour de nouvelles enquêtes. Donc c'est un petit peu un état des lieux. C'est le plus efficace, c'est comme on l'a fait, d'aller sur Internet, d'aller collecter le plus de données possible, le plus rapidement possible. Et comme ça, on a tout de suite une vision d'une problématique et justement de où sont les trous noirs et les zones un petit peu à investiguer davantage. Et donc, il suffit de simplement continuer l'enquête, aller divulguer, faire un deuxième volet, quoi, essentiellement. Donc, c'est recherche de financement et nouveau volet d'enquête, mais ça, c'est comme ça que ça marche dans la recherche.
D'accord. Est-ce que l'étude menée auprès de la communauté LGBTQIA+, au niveau des résultats, est-ce que ça correspond aux études menées auprès des personnes hétérosexuelles, ou ça n'a rien à voir ?
Si, donc ça c'est l'hypothèse de base, puisque c'est ce qui a été découvert dans d'autres pays également, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les violences entre partenaires intimes au sein des relations non hétérosexuelles sont tout aussi fréquentes, voire plus fréquentes qu'au sein des relations hétérosexuelles, pour toute une série de facteurs qui seront abordés pour ceux que ça intéresse dans le rapport final, notamment le stress minoritaire que vivent les personnes LGBTQIA+, ça c'est un des principaux facteurs, ou les agressions qui n'existent pas au sein des hétérosexuels, par exemple le fait de révéler l'homosexualité, ça peut être des outils d'agressivité. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui expliquent cela, mais en effet, on découvre dans notre enquête, comme dans les chiffres globaux, donc tout ça correspond, que les violences entre partenaires non hétérosexuels sont supérieures ou égales aux violences dans les couples ou les relations hétérosexuelles. Et ça, c'est le cas chez nous aussi. Donc, si on compare avec l'étude en Flandre, qui a été faite par Hellemans et Hall en 2015, on a en effet entre 14 et 50% de violences au sein des couples non hétérosexuels. Et ça dépasse à peu près, à peu de choses près, ce qu'on observe chez les hétérosexuels.
Souvent, quand on parle de violences entre partenaires, on évoque le terme de victime. Mais dans le sens aussi, parfois, que la personne n'a pas conscience d'être victime. Et pour certaines personnes, c'est important de se rendre compte qu'elles sont victimes, effectivement, de violences. Mais il y a tout un débat sur le terme. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors, ce n'est pas forcément mon domaine d'expertise, mais je sais que c'est un sujet qui est très important à aborder, dans le sens où être victime, c'est déjà un état de fait, et c'est un état de fait qui va au-delà du fait d'avoir subi ou vécu des choses. C'est un petit peu une position dans laquelle on se met. Et donc, ce qui ressort essentiellement, c'est que ça doit être un choix de la personne d'être ou pas victime. On n'est pas victime simplement parce qu'on subit quelque chose. Et il est tout aussi important, et il n'y a pas de valeur accordée au fait d'être ou de ne pas être victime. C'est pas une question de jugement de valeur. Mais les personnes ont cette liberté d'être victime ou pas victime. Donc, dans certaines études, et de plus en plus, on va utiliser ou entendre le terme « cible », par exemple. Je pense que l'état de la recherche n'a pas encore statué sur exactement quel terme utiliser, mais il y a des propositions comme « cible », qui est plus... Être cible de violence, c'est beaucoup plus binaire, en fait. On l'est ou on ne l'est pas. Être victime, c'est plus complexe, c'est plus fluctuant.
Oui, c'est ça, c'est dans un état particulier, dans un statut particulier, quoi.
Oui, et alors, ça, évidemment, ça a des implications sur la recherche d'aide. Est-ce qu'on va rechercher le même type d'aide? Est-ce qu'on va avoir la possibilité d'aller chercher de l'aide quand on se considère victime? Est-ce qu'il faut plutôt que les structures d'aide aillent elles-mêmes, de manière proactive, chercher les victimes, aider les victimes? Ça oriente pas mal la position de la personne et du coup des structures qui vont pouvoir lui venir en aide.
Et quels vont être les effets de cette étude? Est-ce qu'il va y avoir des actions qui vont être mises en place? Il va y avoir des pistes d'action qui vont se dégager concrètement, oui, sur le terrain?
Oui, alors donc ça c'est l'objectif. Hein, tel quel, étant une ASBL vraiment de terrain, principalement l'objectif c'est de développer des pistes d'action. Donc, on a deux pans. D'un côté, la recherche va pouvoir bénéficier probablement de cette première enquête pour être approfondie, et on va pouvoir aller chercher un peu plus loin dans les causes et les problématiques et les populations qui sont sous-représentées. Donc, parmi les personnes minorisées, on a évidemment, par exemple, les personnes transgenres qui sont encore une minorité parmi la minorité non hétérosexuelle. Donc, ça, c'est des pistes qui sont ici mises en lumière et qui vont devoir être abouties plus en profondeur dans d'autres études. Et du côté de tel quel, c'est surtout du concret. Donc, on va avoir d'abord, évidemment, la publication des résultats sous forme d'un livret qui va être distribué aux ASBL, au personnel, aux professionnels de terrain, probablement aux forces de l'ordre, pour sensibiliser sur la question, et des formations. Donc ça, ce sera à destination des centres d'accueil, de toute personne susceptible en fait d'être en contact ou sollicitée par les personnes non hétérosexuelles victimes de violences conjugales, pardon, de violences entre partenaires intimes, voilà. Et en fait, c'est justement ça, parce que je regarde un petit peu mes notes, c'est justement ce genre d'utilisation un peu erronée de la terminologie, l'utilisation du langage qui peut parfois être un des aspects principaux dans l'accueil inclusif des personnes victimes et auteurs. D'ailleurs, on n'oublie pas que les personnes auteurs et autrices de violences ont également besoin d'aide. Tout ça, donc l'utilisation du langage, tout ce qui est a priori hétéronormé, donc ce qu'on appelle, on va dire, la femme battue, toute cette manière de penser les violences entre partenaires de manière genrée, hétéronormée, tout ça peut être perçu comme très exclusif pour les personnes qui se situent en dehors de cette notion binaire. Et donc l'idée, c'est de former les professionnels à ces réalités-là. Également, des outils assez concrets vont être mis en place. Il y en a un qui est en cours de fabrication, un outil de reconnaissance de la victimisation, l'auto-reconnaissance, donc qui va permettre aux personnes en utilisant l'outil de savoir si elles sont ou non dans une relation abusive et potentiellement victimes de violences. Parce qu'un des résultats nombreux que je n'ai pas pu encore détailler ici, c'est le fait que beaucoup de personnes ont du mal à se reconnaître victimes ou de moins ne se reconnaissent pas victimes.
Une suite à l'étude, une phase 2, est-elle envisageable pour approfondir certains axes ou points? C'est ça?
Oui, bien sûr. Donc...
une phase 2 d'office. On est déjà en train de la démarrer. Donc là, il s'agit d'évaluer les liens entre les violences et les inégalités entre partenaires, puisque pour l'instant, on a en fait les données principales sur la prépondérance de victimisation et de perpétration des violences. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin dans les données qui différencient un partenaire de l'autre et qui peuvent expliquer ou du moins décrire les réalités interpersonnelles qui mènent à ces violences. Pour ça, on a beaucoup de données, mais il manque de temps encore pour les exploiter. On voudrait aussi, évidemment, se pencher sur un des résultats les plus criants et déstabilisants de l'enquête, qui est que la majorité des personnes, donc écrasante majorité des personnes, ne font pas appel à la police ou au service judiciaire. Donc on a, ici j'ai noté, sur les 46% de victimes, 7% sont victimes de violences sévères ou extrêmes, et seulement 2% des participants sur toute la population décrivent avoir été à la police ou s'être rendus dans des services judiciaires. Donc on a vraiment un souci au niveau de l'appel à l'aide dans les structures qui sont censées pouvoir réceptionner ce genre de problématiques. Et ça, c'est un aspect à vraiment investiguer plus en détail, essayer de comprendre pourquoi les personnes ne vont pas à la police, probablement comprendre pourquoi la police n'est pas apte à répondre à ce genre de demandes. Donc il y a un travail ici d'enquête et de terrain à faire qui va rentrer dans une prochaine phase. Ensuite, on a, comme je l'ai dit précédemment, des populations qui sont peu représentées dans notre échantillon. Donc si on veut aller un petit peu plus loin dans la compréhension du phénomène, il faudrait faire des échantillonnages spécifiques pour les personnes trans, par exemple, qui, dans certains domaines, déclarent être fortement victimes de violences. Et ça, bon, on ne peut pas encore beaucoup en parler puisque l'échantillon n'est pas représentatif, mais les données sont quand même là pour nous alerter. On a aussi observé que les personnes âgées pouvaient potentiellement être plus victimes qu'on ne le croit. Et elles sont également celles qui font le moins appel aux structures d'aide dans nos résultats. Donc ça, c'est aussi un domaine à investiguer. En fait, cette étude étant exploratoire et descriptive, permet un petit peu de balayer le paysage. Mais tout ça, en fait, sont simplement des indications de où aller chercher un petit peu plus loin et ce qu'il faudrait faire en plus pour comprendre. Donc ça, c'est toutes les pistes qui vont rentrer dans une phase 2. Et puis, pourquoi pas une phase 3 qui sera plus qualitative. Donc, l'idée, là, ce serait d'aller vraiment plus dans le qualitatif. C'est donc plutôt des chiffres et des statistiques, mais des interviews et une étude qui permet d'aller vraiment dans la réalité vécue telle qu'elle est vécue par les personnes et non telle que nous, on la pense en tant que chercheurs, chercheuses. Donc ça, ce serait idéalement une troisième phase qui permettrait vraiment d'esquisser de manière beaucoup plus détaillée la réalité.
Super. Et par hasard, est-ce qu'il y a un moment de présentation qui est prévu pour l'étude ?
Oui. Alors, on a déjà une première présentation des résultats préliminaires en juin, quand les premiers résultats sont sortis. Ensuite, le mois prochain, en octobre, le livret là va être publié. Donc, à l'occasion de sa diffusion, on voudrait probablement refaire une présentation. Et tout ça est toujours évidemment explicité sur le site de Telquel. Donc, n'hésitez pas à vous rendre là-dessus pour avoir en temps réel les avancées du projet.
Oui, et puis pour les autres phases et pour si jamais des gens veulent s'investir, si jamais ils ont envie de partager certaines choses également, on reste naturellement ouvert à toute possibilité. Donc sur le site internet, en effet, sur les réseaux sociaux également, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation de l'étude. Et effectivement, la suite, on attend la suite, on pourrait refaire une émission d'ailleurs après pour voir les pistes d'action, comment ça se dégage, comment ça se met en place. Donc à vos agendas, allez consulter le site de tel quel, comme l'a si bien indiqué Marine. Et merci Tessa.
Oui,
et,
merci.
Merci à vous.
Et à une prochaine fois. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonne soirée.
Hors case, une émission LGBT. de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.